Alors, le cours d'aujourd'hui porte sur le mythe napoléonien, de quelle façon les artistes ont abordé cette épopée napoléonienne. Et en fait, on va aborder plus précisément la légende dorée et la légende noire de cette épopée napoléonienne. Il faut revenir sur les mots utilisés dans le titre « fabrique » et « mythe ». Ce sont des mots que je n'ai pas utilisés au hasard, ce ne sont pas des mots anodins. « Fabrique » parce qu'il s'agit bien d'une construction, une construction de toutes pièces, qui vise à réécrire l'histoire et à forger une mémoire glorieuse, tout à la gloire de Napoléon. Et « mythe » parce que cette mémoire, c'est une mémoire remaniée, remodelée, qui mythifie Napoléon, c'est-à-dire qui l'érige au rang de personnage exemplaire. Cette vision-là, elle n'est pas forcément objective, et Chateaubriand, dans ses mémoires d'outre-tombe, en donne un bon exemple en résumant la chose de la façon suivante. Bonaparte n'est plus le vrai Bonaparte, c'est une figure légendaire, composée des lubies du poète, des devis du soldat et des contes du peuple. C'est le Charlemagne et l'Alexandre des épopées du Moyen-Âge que nous voyons aujourd'hui. Ce héros fantastique restera le personnage réel. Donc c'est ce personnage réinventé, ce personnage mythifié, qui s'impose comme le personnage véridique dans la mémoire collective. Donc d'un côté, comme l'indique le titre, il y a la légende dorée, celle qui sublime l'épopée napoléonienne et qui sublime par la même occasion le personnage de Napoléon Ier. Et puis d'un autre côté, il y a la légende noire. Napoléon, il a ses adorateurs, mais il a aussi ses contempteurs qui écornent le mythe et qui... Voilà, ça m'a troublée. Donc, qui écorne le mythe et qui n'ont de cesse de fustiger cette épopée napoléonienne. Un bon exemple de cette critique acerbe, c'est ce caricaturiste anglais, James Gillray, j'en parlerai tout à l'heure. Et c'est un artiste qui va notamment beaucoup combattre cette épopée napoléonienne. Il va la critiquer de façon très caustique, très acerbe. Et là, en l'occurrence, on a Bonaparte quittant l'Égypte et on voit un Bonaparte vorace et avide embarquant sur un bateau avec tout un butin, puisque ces campagnes militaires, généralement, étaient accompagnées de tout un tas de spoliations et de déprédations. Alors, il faut évoquer un peu plus précisément le personnage de Napoléon Bonaparte. Il naît à Ajaccio en 1769 et il meurt en exil sur l'île de Sainte-Hélène en 1821. Bonaparte apparaît sur la scène pendant la période révolutionnaire et plus précisément pendant la campagne d'Italie. Cette campagne d'Italie, elle a lieu de 1796 à 1797 et elle est très importante puisqu'elle le consacre fin stratège et surtout elle le consacre chef d'une armée qui lui est entièrement dévouée. À ce moment-là, Bonaparte agit au nom du directoire, mais il a tendance à faire cavalier seul et de fait c'est lui et lui seul qui apparaît comme le maître de l'Italie. Et de fait, au départ, il est l'objet de sarcasme, et puis, grâce à cette campagne d'Italie, il devient de plus en plus puissant, de plus en plus prestigieux. Cette mécanique-là, elle est bien huilée, il y a déjà tout un tas d'œuvres d'art qui viennent promouvoir ses actions, et il y a également tout un tas d'écrits, je pense notamment au bulletin de l'armée d'Italie, qui viennent médiatiser et glorifier ses actions. Lorsqu'il revient en France, lorsque cette campagne d'Italie est achevée, il est accueilli triomphalement. La question se pose, comment pérenniser cet engouement? Bonaparte va se lancer dans une autre campagne, beaucoup plus importante, en tout cas sur la durée, c'est la campagne d'Égypte. Et cette campagne d'Égypte, elle va consacrer sa gloire en France. L'expédition est entamée en 1798, elle entend pénétrer, s'enraciner dans un empire ottoman qui est alors totalement déliquescent. Puis l'enjeu est politique donc, mais il est également stratégique. Le but du jeu, c'est contrer toute mainmise de l'Angleterre sur le continent africain et au-delà sur l'Asie. Le XIXe siècle, hein, c'est l'occasion pour l'Angleterre de constituer un empire colonial très puissant, très important. Et donc, d'ores et déjà, Bonaparte avait cette ambition de contrecarrer cette mainmise qui se profilait. En 1799, coup d'État, Bonaparte instaure un nouveau mode de gouvernement, le consulat, qui met fin au gouvernement du directoire. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ce gouvernement du directoire était un gouvernement instable, fragile, vulnérable, et Bonaparte, en mettant fin au directoire, finalement met fin à une certaine forme d'anarchie et apparaît comme un sauveur. La popularité de Bonaparte, alors, elle est bien réelle. Je le rappelle, hein, il y a eu cette campagne d'Italie, il y a eu cette campagne d'Égypte qui vient de débuter. Il y a toute une mécanique qui se met en place pour promouvoir ses actions. Donc, il s'impose vraiment comme un sauveur. Ce consulat dure jusqu'en 1804, et puis en 1804, et ce jusqu'en 1814, grosso modo, c'est la constitution du Premier Empire. Et à partir de là, et ça, ça nous intéresse, se met en place une véritable propagande qui vise à célébrer Napoléon à l'égal d'un César, à l'égal d'un Charlemagne, bref, un personnage puissant qui veut faire de l'Europe un vaste empire. Dès le départ, Bonaparte a conscience de l'utilité des arts. Lors de la campagne d'Italie notamment, il va ramener un butin conséquent pour orner les palais, pour orner les musées, et parmi les spoliations les plus célèbres, il y a les chevaux de Saint-Marc. Alors ces chevaux de Saint-Marc, ils ont une histoire rocambolesque. Ils avaient déjà fait l'objet d'une spoliation puisqu'ils faisaient partie du butin de guerre ramené par les croisés lors du cercle de Constantinople au début du XIIIe siècle. Et ils avaient été ramenés à Venise et ils ornaient la basilique Saint-Marc. Et lorsque Bonaparte s'empare de Venise, eh bien il récupère ces chevaux pour les ramener à Paris. Ils orneront notamment l'arc de triomphe du carrousel. Bonaparte va se livrer à un grand nombre de spoliations et ces spoliations ont été très décriées à l'époque. On a notamment le témoignage d'un homme politique, d'un théoricien, Quatremer de Quincy, qui a beaucoup réfléchi d'un point de vue esthétique sur le sens de ces raptes, et il voyait notamment dans ces spoliations une forme d'amputation. Finalement, il y avait cette idée que arracher des œuvres d'un contexte historique, social, culturel et les replacer de façon arbitraire dans un tout autre contexte, c'était quelque chose de contre-nature. Quatremer de Quincy a écrit beaucoup sur cette forme d'amputation. Ce sont des termes qu'il utilise d'ailleurs. Donc cette campagne d'Italie fait l'objet d'un certain nombre de spoliations et la campagne d'Égypte va faire également l'objet d'un certain nombre de raptes. Néanmoins, cette campagne d'Égypte, elle est très importante d'un point de vue artistique et intellectuel. Elle est très importante parce que Bonaparte va s'entourer de toute une équipe composée de scientifiques, d'historiens, de géomètres, d'ingénieurs, et toute cette équipe va le suivre et va réaliser une somme gigantesque qu'on appelle la description de l'Égypte. Et cette description d'Égypte, c'est un fantastique inventaire de tous les trésors architecturaux, naturels, historiques du pays. Donc ça, c'est quand même un point très positif de cette campagne d'Égypte. Au-delà, cette campagne, c'est le point de départ d'une véritable vogue pour l'exotisme, pour l'orientalisme. On parle même d'égyptomanie. C'est une vogue qui contamine tous les arts, hein, aussi bien l'architecture, la sculpture que les arts décoratifs. Et l'Orient va devenir, à ce moment-là, en début du XIXe siècle, un nouvel ailleurs et va balayer l'Antiquité. C'est désormais dans l'Orient que s'incarnent l'exotisme, l'authenticité, l'étrange et l'étranger. Donc il a une conscience très aiguë de l'importance de l'art, Bonaparte, et au-delà, dès le départ, il va conceptualiser la figure napoléonienne. Il multiplie les références prestigieuses, hein. Il aime beaucoup qu'on le compare à Charlemagne ou à César, ça c'est certain, mais c'est aussi un homme de son temps, et d'emblée, il va imposer des codes iconographiques pour être reconnaissable. Et ces codes iconographiques, on le voit ici par exemple, c'est le bicorne, c'est cette posture réflexive. Bonaparte doit devenir une image d'emblée visible et d'emblée reconnaissable pour ses contemporains. L'art est donc un outil de propagande. Il y a une fabrique de l'image, il y a une fabrique du mythe, je l'expliquais tout à l'heure en introduction. Fabrique parce qu'il y a création, il y a recréation, l'image et réajusté pour coller au plus près des ambitions napoléoniennes. Et pour relayer ces idées, pour lier art et pouvoir, Bonaparte va créer un certain nombre d'institutions, va être le meneur de certains projets, et il y a un personnage qui va jouer un rôle très important, c'est Dominique Vivant-Denon. Dominique Vivant-Denon, on va le rencontrer de nouveau tout à l'heure, il a à la fois un rôle administratif, c'est-à-dire qu'il est à la tête de tous les projets culturels, de tous les projets muséaux de l'époque, mais il a aussi un rôle politique parce qu'on va le voir, c'est lui qui chapeaute l'iconographie napoléonienne. Et c'est lui qui va inciter les artistes à représenter telle ou telle scène, et surtout à représenter de la façon la plus idéale et la plus positive possible le personnage de Napoléon Bonaparte. Donc on va débuter ce cours avec la légende dorée, cette légende dorée qui sublime le personnage. C'est une construction, une reconstruction de toute pièce. Hein. Là encore, on n'hésite pas à malmener l'histoire pour étayer les ambitions napoléoniennes et leur donner à la fois une autorité et une légitimité. Et je voulais commencer par un artiste petit bug du PowerPoint, je voulais commencer par un artiste qui s'appelle Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, c'est un peintre qui naît à Paris en 1748, il meurt à Bruxelles en 1825, et c'est un peintre qui débute son apprentissage dans l'atelier de Joseph-Marie Vien. Joseph-Marie Vien, c'est un des grands protagonistes du néoclassicisme. Ça, c'est une œuvre typique de Vien, Les jeunes Grecs, parents de fleurs, l'amour endormi. C'est une œuvre qui, pour la petite histoire, avait été commandée pour Madame du Barry, la maîtresse de Louis XV, pour son pavillon de musique de Louvciel. Et c'est assez typique du travail de Vien. Le néoclassicisme, c'est ce goût pour l'art classique qui émerge au XVIIIe siècle. C'est un goût pour l'art classique qui est vivifié par toutes les découvertes archéologiques de l'époque. C'est au XVIIIe siècle qu'on redécouvre des sites comme Pompéi ou comme Herculanum. Et ça va avoir un impact sur l'histoire et sur l'histoire de l'art. On va s'inspirer de l'Antiquité, mais c'est une démarche très historique, très fidèle. Avec tous ces vestiges, on a tout un répertoire de formes qui vient vivifier l'inspiration des artistes. Et ce néoclassicisme, il arrive à pic, parce qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, on est en plein dans le style rococo ou rocaille, qui est un style extrêmement surchargé, tout en opulence, tout en surcharge décorative. Et le néoclassicisme, finalement, c'est un art beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré, qui vient vivifier donc l'inspiration des contemporains. Au-delà, petite parenthèse, ce retour à l'antique qui va prendre place pleinement au XIXe siècle, ce retour à l'antique, il est indissociable de l'esthétique impériale. À travers la redécouverte des canons antiques, des formes antiques, on cherche à donner une nouvelle définition du beau qui colle aussi à cet avènement de temps nouveau. Il y a une corrélation certaine entre cette redécouverte de l'Antiquité et cette conscience que finalement il y a une nouvelle donne historique après la chute de la royauté. Jacques-Louis David va séjourner à Rome. Et ce séjour à Rome va influencer profondément son style. Et de fait, de retour en France, ses œuvres vont prendre racine dans l'histoire antique. Il y a un certain nombre d'œuvres qui s'inspirent de l'Antiquité. La plus célèbre est sans doute le Serment des Horaces. C'est un tableau qui a été commandé par Louis XVI. Il est réalisé en 1784. Et on a ici une œuvre emblématique du néoclassicisme. On est à la fois dans une œuvre qui s'inspire de l'Antiquité par son thème, mais également par sa composition qui est toute en horizontalité et qui s'inspire très clairement des bas-reliefs antiques. C'est un épisode de l'histoire romaine, le combat des Horaces qui avait été choisi par les Romains contre les Curiaces qui avait été choisi par un autre peuple, les Albains. Et là, on a justement ce moment où les frères reçoivent de leur père leurs armes. On a une composition qui est tout en sobriété, avec ce courage, cette abnégation qui est très sensible ici. Et puis, on a les femmes de la maisonnée qui sont épleurées, mais qui restent dignes malgré tout. Le parcours artistique de David colle au plus près des événements historiques de l'époque. David va prendre une part active à la vie révolutionnaire. Il va être député, il va être le grand ordonnateur des fêtes et des cérémonies révolutionnaires. C'est vraiment l'un des thuriféraires de cette geste révolutionnaire. Il va réaliser un certain nombre de tableaux pour glorifier cette épopée révolutionnaire. Et j'ai choisi de vous montrer celui-ci, La mort de Barras. C'est un tableau qui est peint en 1794 et qui est conservé au musée Calvé d'Avignon. C'est un tableau très fort puisqu'on a ce fond presque abstrait qui vient singulariser et magnifier la figure de ce jeune homme. Il est représenté nu, c'est un choix de la part de David pour montrer l'ignominie et l'injustice de sa mort. Barras était un jeune révolutionnaire qui est mort dans une embuscade en Vendée. Il avait été sommé de crier « Vive le roi !» Il s'y est refusé et il a crié à la place « Vive la République !» Donc il incarne la révolution et là, ici, il fait vraiment figure de martyr de la cause révolutionnaire. David est donc l'un des grands turiféraires de cette épopée révolutionnaire. Et puis, quand Bonaparte arrive sur le devant de la scène, David va être fasciné par le personnage. Il y a une fascination sincère, réelle de sa part. Et il va embrasser tout aussi fougueusement, tout aussi passionnément l'épopée révolutionnaire. Il a une place très importante, David, dans l'histoire de l'art, parce qu'il va influencer à la fois le néoclassicisme, avec ce sens de la beauté formelle hérité de l'Antiquité. Il va influencer également le romantisme avec ce sens de l'épopée. Il insuffle une fougue dans ses œuvres qui fait de Napoléon un héros romantique avant l'heure. Et justement, cette fougue, on la retrouve ici, dans ce tableau très célèbre, Bonaparte franchissant le Saint-Bernard. C'est un tableau qui est conservé au château de Malmaison, qui est peint en 1800. C'est un tableau qui est commandé par l'entourage de l'empereur pour commémorer la campagne d'Italie. Et on a ici un Bonaparte fier, hiératique, impassible, malgré une posture tout en déséquilibre sur ce cheval cabré. Et on voit ici donc qu'il pointe du doigt le chemin à suivre. Donc David insuffle vraiment une fougue, une passion, on est vraiment dans l'épopée, cette fougue, cette passion sont accentuées par ce regard de Bonaparte, un regard entêté. Cette fougue, elle est accentuée également par le ciel obscur qui se confond avec le personnage minéral. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour sublimer encore plus cette épopée napoléonienne, ce courage, cette ardeur, David choisit de placer des références prestigieuses, des références historiques qu'on voit notamment dans la partie gauche du tableau. On voit donc Bonaparte inscrit sur l'un des rochers et il y a deux autres rochers en dessous. Malheureusement, l'image n'est pas très nette. Les inscriptions sont Hannibal et Charlemagne, deux grands personnages historiques presque mythiques qui eux aussi ont traversé les Alpes et qui ont été des personnages qui ont marqué l'histoire. Donc il y a vraiment cette volonté de manifester cette filiation historique pour asseoir la légitimité, le courage de Bonaparte. Petite parenthèse, les œuvres de cette époque montrent toujours un Bonaparte très échevelé, fébrile, passionné. On est vraiment face à l'image du héros romantique par excellence. Par la suite, lorsque le Premier Empire sera proclamé, les images seront très différentes. On aura un Napoléon Ier très impassible, très hiératique, presque iconique. Et ça, c'est vraiment très amusant de voir comme les codes iconographiques ont changé d'un mode de gouvernement à un autre. Alors, l'œuvre la plus fameuse de David est sans doute celle-ci, le Sacre de l'Empereur Napoléon. C'est une œuvre gigantesque qui est peinte pour commémorer le Sacre de l'Empereur Napoléon en décembre 1804 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un sacre extrêmement prestigieux puisque le pape lui-même était présent durant cette cérémonie. Néanmoins, ce n'est pas lui qui procède au sacre. Napoléon se sacre lui-même. Et ici, on le voit, c'est lui qui sacre Joséphine, impératrice. C'est une œuvre gigantesque. Elle fait plus de 9 mètres de long. C'est une œuvre lumineuse avec des couleurs chatoyantes pour rendre le faste de la cérémonie. Elle a fait l'objet d'un travail très très important de la part de David qui avait multiplié les maquettes dans son atelier pour essayer de recomposer de la façon la plus idéale possible cette cérémonie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, David a subi des pressions monstres des contemporains de l'époque qui voulaient justement être à la meilleure place sur ce tableau et qui le harcelaient véritablement pour être d'emblée visible dans cette œuvre-là. Je l'ai dit tout à l'heure, Napoléon se sacre lui-même. C'était une façon de marquer son indépendance vis-à-vis de l'Église. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, malheureusement l'image n'est pas très nette, Le pape est représenté ici dans une attitude très, très conciliante, très bienveillante, alors qu'on s'en doute, le fait d'être un témoin passif lors de cette cérémonie ne l'avait pas particulièrement enthousiasmé. Donc il y a une réécriture de l'histoire ici, et autre forme de réécriture, David a choisi d'insérer la mère de Napoléon alors qu'elle n'était pas présente durant cette cérémonie. Autre œuvre de David, le serment de l'armée fait à l'empereur après la distribution des aigles. Cette distribution des aigles, en fait, elle avait fait suite au sacre de Napoléon et de Joséphine. Et à partir de là, donc, l'aigle est choisi comme l'emblème de l'Empire. Donc la cérémonie avait eu lieu au Champ de Mars, dans des conditions météorologiques épouvantables. Donc là, il y a encore une fois une réécriture de l'histoire, puisque on est dans un décor, dans un paysage qui montre un ciel plutôt ensoleillé. Et autre forme de réécriture, on a derrière Napoléon un personnage qui a une jambe démesurément longue. Ce personnage... une jambe démesurément longue, parce qu'en fait, à sa place, il y avait Joséphine de Beauharnais. Sauf que le tableau a été peint en 1810, et à ce moment-là, Joséphine de Beauharnais avait été évincée. À la place, il y avait Marie-Louise, et donc c'était un peu, comment dire, ça faisait tâche de garder Joséphine de Beauharnais sur ce tableau-là. Donc Joséphine de Beauharnais a été gommée, purement et simplement, et petite astuce picturale de la part de David, eh bien, l'élongation énorme de cette jambe, de ce personnage, qui est en fait le fils de Joséphine de Beauharnais, Eugène. Alors, autre artiste, Ingres. Jean-Auguste Dominique Ingres, né en 1780 à Montauban. Il meurt à Paris en 1867. C'est un artiste qui est proche de David. Il a travaillé dans son atelier. Et puis, par la suite, il voyage en Italie. Et donc, de retour à Paris, il se pose comme l'archétype du peintre classique. Ingres, c'est un peintre qui multiplie les recherches picturales pour parvenir à une forme idéale. Et effectivement, dans les œuvres d'Ingres, il y a des caractéristiques bien précises. Il y a cette lumière tamisée, omniprésente, qui vient sublimer les corps, et ces corps sont tout en arabesque. Il y a vraiment cette volonté de donner une image idéale, éthérée, de la figure féminine. Ça, c'est sans doute l'une des œuvres les plus fameuses de Jean-Auguste Dominique Ingres, La Grande Odalisque. C'est un tableau qui est peint en 1814 et qui est assez caractéristique de cette recherche stylistique, puisque c'est un tableau qui a beaucoup choqué la critique à l'époque, qui s'était étonné de ce corps contre nature et qui s'était amusé à compter les vertèbres de cette Grande Odalisque et avait décrété qu'il y avait trop de vertèbres, donc c'était un corps contre nature. Tout à l'heure, j'évoquais cette vogue pour l'exotisme et l'orientalisme. On en a un parfait exemple ici. C'est un Orient totalement fantasmé, puisque Ingres n'a jamais voyagé dans des contrées si lointaines. Néanmoins, il multiplie les détails pour donner à voir l'exotisme. Et ces détails, on les voit notamment dans ce turban que porte cette jeune femme, mais également dans l'éventail qu'elle tient dans la main. Ingres, il va réaliser un tableau assez connu. C'est celui-ci, Napoléon Ier en costume de sacre. C'est un tableau qui est peint en 1806. On a ici tous les symboles du pouvoir qui glorifient cette image de Napoléon. On a les régalia, qui étaient les instruments de la royauté. On a ce tapis orné de l'aigle. Donc là, c'est vraiment le symbole du Premier Empire. Et puis on a cet empereur écrasé par ce manteau très ample qui finalement le statufie, voire qui le désincarne. On a vraiment une œuvre là presque iconique. Plus rien n'est humain dans cette représentation de Napoléon Ier. Elle est très différente de l'œuvre suivante de François Gérard. François Gérard, c'est également l'un des disciples de David. C'est un peintre qui naît en 1770 et qui meurt en 1837. C'est le peintre officiel en fait de la famille impériale et de ses proches. Et donc en 1805, eh bien, il peint ce portrait de Napoléon Ier en costume de sacre. Et alors évidemment, on a une vision un peu rigide. Les portraits officiels sont toujours extrêmement impressionnants. On se doit d'être un peu hiératique, évidemment. Mais néanmoins, on est très très loin de la représentation précédente où véritablement Napoléon était comme statufié. Une autre œuvre de François Gérard que je voulais vous présenter, c'est celle-ci, La bataille d'Austerlitz, c'est un tableau qui est peint en 1810. C'est une commande, là encore, qui était destinée à orner le palais des Tuileries. Austerlitz, c'est une victoire napoléonienne, hein, les Russes sont écrasés, et en fait les Russes sont écrasés le jour anniversaire du sacre. Austerlitz, c'est en 1805, le 2 décembre 1805, pile poil un an après le sacre de Napoléon, donc signe du destin. Et autre signe du destin, autre témoignage de la providence divine qui vient singulariser ce destin de Napoléon, c'est ce qu'on appelle le soleil d'Austerlitz, parce que le jour de la bataille, le soleil se serait levé et hop, la victoire aurait été pour le camp napoléonien. Donc là, dans ce tableau, on apporte en fait les prises de guerre hein, à Napoléon, et notamment donc les prisonniers. Bon, c'est un tableau qui est assez caractéristique des scènes de bataille de l'époque, hein, toujours un ciel très sombre, très ténébreux, une nature hostile, évidemment des cadavres, hein, cette circonstance, malheureusement, et voilà, tous ces soldats napoléoniens qui font corps autour de l'empereur et qui lui sont dévoués corps et âme. Alors Antoine Gengros, c'est un artiste qui a un destin un peu... enfin même très tragique, c'est un artiste qui a totalement épousé l'épopée napoléonienne. Gros a une véritable admiration pour Napoléon Bonaparte. C'est un artiste qui est lui aussi l'un des disciples de David, mais Gros va rapidement s'émanciper de cette influence, et on peut le considérer comme l'un des précurseurs du romantisme. Alors le romantisme, petite parenthèse, hein, c'est donc un mouvement qui prend place au XIXe siècle et qui s'inscrit en réaction contre le néoclassicisme. Il y a cette volonté de s'émanciper de cette raideur, de cette froideur imposée par le néoclassicisme. Il y a cette volonté de saisir la quintessence de l'homme, dans toute sa complexité. Hein, on va s'intéresser aux tourments de l'homme, on va s'intéresser à ses passions. Et donc, le romantisme, on peut considérer que c'est un art parfois un peu sombre, un peu tumultueux. En tout cas, c'est un art qui veut s'émanciper des carcans de la tradition. Un bon exemple de cette démarche, c'est ce tableau, Bonaparte au pont d'Arcole, qui est conservé à Paris, au musée du Louvre. Donc, le contexte historique, c'est cette campagne d'Italie, qui, je le rappelle, a lieu de 1796 à 1797. Et justement, Gros peint cette toile alors qu'il est en Italie et alors qu'il cherche à pénétrer l'entourage de Bonaparte. Il va lui présenter une esquisse qui va conquérir Bonaparte et dès lors, séduit, Bonaparte lui demande de peindre un certain nombre d'œuvres qui vont célébrer et glorifier ses actions. Donc là, on a vraiment la figure du héros romantique. On a un Bonaparte échevelé qui lance un regard téméraire, résolu, vers un horizon que le spectateur ne peut pas découvrir, mais un horizon là encore nuageux, ténébreux. Tous les éléments de la nature se liguent contre Bonaparte, mais malgré tout, il triomphe. Il y a vraiment cette image-là du héros dans toute sa splendeur. Et Gros insuffle ici une fougue qui concourt déjà à façonner ce mythe. Le mythe d'un Bonaparte impétueux, très loin finalement de l'image donnée par David dans Bonaparte franchissant le Saint-Bernard, où il apparaissait impassible et passif d'une certaine façon, alors que là pas du tout. On sent que Bonaparte est anxieux, est téméraire et résolu. Ici, Gros préfigure le romantisme. On peut rapprocher cette œuvre de celle-ci, le cuirassier blessé de Théodore Géricault. Théodore Géricault, c'est vraiment la figure du romantisme. C'est un artiste qui va réaliser un certain nombre d'œuvres emblématiques de cette recherche picturale amorcée par les romantiques. Et c'est un tableau qui nourrit de profondes résonances avec le tableau de Gros. Il y a cette posture du cuirassier dans un univers là aussi très hostile, hein, le ciel est noir, le paysage est minéral, sombre, et ce cuirassier a une posture arquée qui fait écho à celle du cheval qui est cabré par l'effroi, et on a vraiment l'impression que ce paysage, tip-top la lumière, petite parenthèse, là c'est très bien. Je reprends. On a vraiment l'impression que ce paysage nébuleux, sinistre, exacerbe le désespoir de ce cuirassier qui est vraiment représenté dans la solitude et dans le désespoir du combat. Alors, l'une des œuvres les plus fameuses de Gros, c'est celle-ci, Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa. C'est une œuvre qui est peinte en 1804. Là encore, hein, comme le Sacre de David, c'est une gigantesque scénographie. C'est une œuvre qui fait plus de 7 mètres de long. Et c'est une œuvre qui a été commandée et programmée par Dominique Vivant-Denon. Dominique Vivant-Denon, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le véritable orchestrateur de la geste impériale. Ici, la tragédie, l'exotisme se conjuguent dans une atmosphère vespérale, presque cauchemardesque. On est dans un décor orientalisant, dans une mosquée, et au centre de la composition, cerné par des soldats décatis, indolents, on a Bonaparte, impérial, c'est le cas de le dire, qui s'est arrêté pour approcher un soldat. Et on a la lumière qui jaillit sur lui et qui donne à la scène une dimension un peu étrange, une dimension un peu miraculeuse. À partir de là, il faut replacer l'œuvre dans son contexte historique. On est en plein dans l'expédition d'Égypte, qui, je le rappelle, se déroule entre 1798 et 1801. Il faut replacer l'œuvre dans son contexte politique, 1804, l'année du sacre. Jaffa, c'est l'un des épisodes les plus décriés de l'expédition d'Égypte. Ça se passe en mars 1799, et cette ville de Jaffa, qui se situe en Israël aujourd'hui, est assaillie par l'armée d'Orient. L'assaut est d'une violence inouïe, la population est massacrée, les soldats turcs qui avaient voulu se rendre sont exécutés manu militari, et finalement, ce n'est pas ce que les contemporains vont retenir. Les contemporains vont retenir un épisode tout à fait différent. Les contemporains vont retenir la fin des propres soldats de Bonaparte. Ces soldats étaient atteints de la peste, et en fait, Bonaparte a demandé à les achever. Donc c'est finalement plus une mesure de prophylaxie, certainement, qui a incité le général Bonaparte à tuer ses propres soldats. Néanmoins, c'était du pain béni pour les détracteurs de l'époque, qui ont évidemment insisté sur la sauvagerie et sur l'ignominie de ce geste. Donc le but du jeu, pour gros, en 1804, eh bien, c'est de réhabiliter Bonaparte et de donner une vision un peu idyllique de cette campagne d'Égypte et de cet épisode de Jaffa. Donc Antoine Jean Gros doit réécrire l'histoire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre qui est commandée en 1804, l'année du sacre, donc on cherche vraiment à redorer l'image de Bonaparte. Et toutes les œuvres commandées à cette période sont forcément matinées de politique. Hein. Il faut donner une image positive du souverain. Donc Gros, pour cela, va multiplier les références, et il va notamment convoquer la référence christique, qui se rapporte au Christ. Bonaparte, ici, est auréolé des lumières, comme si quelque chose, providentiellement, venait singulariser ce geste, et le geste qu'il fait vers ce soldat, c'est un geste qu'on retrouve dans l'iconographie chrétienne et notamment dans les scènes qui relatent les miracles du Christ. Alors, ces scènes-là, elles sont légion hein, à travers les siècles. Je vous en donne un exemple, ici. Ça, c'est une sculpture, c'est un sarcophage paléo-chrétien. Pour la petite histoire, il est conservé dans la cathédrale de Clermont-Ferrand et on a justement représenté ici un miracle christique, puisqu'on voit le Christ qui, d'un geste, touche un petit personnage dans un édicule votif, et ce petit personnage, c'est Lazare, c'est la résurrection de Lazare. D'un geste miraculeux, le Christ ressuscite Lazare, mort quelques jours auparavant. Donc Gros va remployer cette iconographie chrétienne pour singulariser et pour magnifier le geste de Bonaparte. Au-delà, et c'est l'autre référence, en touchant ces soldats, Bonaparte s'inscrit dans la lignée des rois de France qui, selon la tradition, le jour de leur sacre, guérissaient d'un geste les écrouelles. Donc Gros va remployer à la fois l'iconographie chrétienne et à la fois l'iconographie royale pour asseoir l'autorité de Bonaparte et pour asseoir également les prétentions de cette nouvelle dynastie qui cherche à s'imposer. Autre œuvre relative à la campagne d'Égypte, c'est celle-ci, la révolte du Caire de Girodet Triosson, qui est également l'un des élèves de David. Girodet Triosson, c'est un grand prix de Rome, donc il va voyager en Italie, il va être profondément influencé par les vestiges de l'Antiquité qu'il découvre à Rome notamment. Il a une formation classique, c'est un peintre que l'on peut rattacher au néoclassicisme, mais c'est un peintre qu'on rattache également traditionnellement au romantisme, puisque ses œuvres sont pleines de poésie et pleines de sensualité, et qu'il a cherché à montrer justement tous les tourments de l'homme. Donc il y a vraiment cette recherche très approfondie pour saisir la quintessence de l'homme, qui est une des caractéristiques de ce mouvement romantique. La révolte du Caire, c'est un épisode donc, qui prend place lors de cette campagne d'Égypte. Bon, les Français cherchent à administrer, à organiser le pays. Cela ne se fait pas sans mal. Et il y a eu notamment une répression en 1798 suite à un soulèvement populaire. Une répression qui s'est faite dans le sang. Et là, on voit justement l'assaut des troupes napoléoniennes qui viennent punir de façon très, très forte et très sanguinaire les insurgés kérotes. On a une vision très exaltée, pleine de fougue, hein, les corps se mêlent, les visages sont convulsés, et on a des couleurs très chatoyantes. Malheureusement, ce n'est pas forcément perceptible ici, mais le tableau, en vrai, est vraiment époustouflant de luminosité et de coloris chatoyants. Et toutes ces coloris-là, justement, vont sublimer l'ardeur et la passion du combat. Là encore, hein, c'est une commande de Dominique Vivant-Denon, et c'est une commande qui vise à exalter cette épopée napoléonienne. J'ai choisi de vous présenter cette œuvre-là parce que c'est un peu le pendant de cette révolte du Caire. C'est Bonaparte pardonnant aux révoltés du Caire. C'est un tableau de Pierre-Narcisse Guérin qui est conservé à Caen. Pierre-Narcisse Guérin, c'est un peintre d'histoire, c'est-à-dire qu'il a représenté des sujets de l'histoire passée ou contemporaine tout au long de sa carrière. Et c'est un peintre qui lui aussi est fortement... Oui, non, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut ? Je ne comprenais pas.
Pardon, désolé.
Non, c'est pas grave. Oui, c'est un peintre lui aussi qui est très, très influencé par l'Antiquité qu'il découvre en séjournant en Italie. Hein. L'Italie, c'est vraiment le séjour traditionnel des peintres au fil des siècles. Hein. Ce n'est pas forcément lié au XIXe. Et donc, dans ce tableau-là, eh bien, on est très loin de l'agitation et du tumulte de l'œuvre précédente. On est dans un lieu où les insurgés du Caire sont extrêmement dociles et viennent recueillir le pardon d'un Bonaparte magnanime et impassible qui surplombe donc ces kérotes, qui n'est pas seul, puisque Bonaparte est auréolé par ses soldats. Et on a une vision donc très, très positive de Bonaparte, le héros qui accorde son pardon malgré la rébellion infâme de ses kérotes. Voilà, et on a l'image d'un Orient, là encore sublimé, hein, ce ciel bleu. Malheureusement, là encore, l'image n'est pas très nette, mais c'est un ciel bleu éclatant. Et puis, on a cette végétation omniprésente qui donne l'image d'une Égypte féconde, d'une Égypte bienheureuse, totalement fantasmée. Je reviens à Gros. Gros qui réalise en 1808 ce tableau, Napoléon sur le champ de bataille d'Eylau. Eylau, c'est une bataille qui a lieu durant la campagne militaire qui oppose la France à la Russie. C'est en hiver 1806-1807. C'est une bataille, cette bataille d'Eylau, marquée par la violence des combats. Balzac, dans le colonel Chabert, en a donné une bonne illustration, puisque le colonel Chabert, c'est un soldat napoléonien qui est donné pour mort sur ce champ de bataille d'Eylau et puis qui va revenir en France et qui va vouloir récupérer sa vie d'avant. Et lorsque le colonel Chabert évoque cette bataille d'Eylau dans le livre de Balzac, il l'évoque de façon très, très précise et il montre toute la violence, toute la sauvagerie qui a régné durant cette bataille sanguinaire. Et alors, je n'ai pas résisté, bon, c'est quelque chose que je fais très fréquemment, citer certains passages de livres qui m'ont plu étant plus jeune. Et donc, je cite ici un extrait du colonel Chabert. Et donc, le colonel Chabert, justement, évoque la bataille. « Monsieur, dit le défunt, peut-être savez-vous que je commandais un régiment de cavalerie à Eylau. J'ai été pour beaucoup dans le succès de la célèbre charge que fit Murat et qui décida le gain de la bataille. Malheureusement pour moi, ma mort est un fait historique consigné dans les victoires et conquêtes où elle est rapportée en détail. Nous fendîmes en deux les trois lignes russes qui, s'étant aussitôt reformées, nous obligèrent à les retraverser en sens contraire. Au moment où nous revenions vers l'empereur, après avoir dispersé les Russes, je rencontrai un gros de cavalerie ennemie. Je me précipitai sur ces entêtés-là. Deux officiers russes, deux vrais géants, m'attaquèrent à la fois. L'un d'eux m'appliqua sur la tête un coup de sabre qui fendit tout jusqu'à un bonnet de soie noire que j'avais sur la tête et m'ouvrit profondément le crâne. Je tombai de cheval. Murat vint à mon secours, il me passa sur le corps, lui et tout son monde, 1500 hommes, excusez du peu. Ma mort fut annoncée à l'empereur qui, par prudence, il m'aimait un peu le patron, voulut savoir s'il n'y aurait pas quelque chance de sauver l'homme auquel il était redevable de cette vigoureuse attaque. Il envoya, pour me reconnaître et me rapporter aux ambulances, deux chirurgiens, en leur disant, peut-être trop négligemment, car il avait de l'ouvrage, « Allez donc voir si par hasard mon pauvre Chabert vit encore. » Ces sacrés carabins, qui venaient de me voir foulés aux pieds par les chevaux de deux régiments, se dispensèrent sans doute de me tâter le pouls et dire que j'étais bien mort. L'acte de mon décès fut donc probablement dressé d'après les règles établies par la jurisprudence militaire. Je reviens à l'œuvre de Gros. Le sujet est une œuvre de commande. Il avait fait l'objet d'un concours. Là encore, c'est Dominique Vivant-Denon qui orchestre l'iconographie. Et le but du jeu, très clairement, c'est de glorifier cette marche victorieuse vers l'Est et c'est de célébrer, là encore, les qualités humaines de Napoléon, des qualités comme la compassion, comme la bravoure, la témérité. Donc on est dans la peinture d'histoire, là encore, c'est la représentation d'un fait historique avéré, d'un fait contemporain. Mais ce qui est intéressant, le XIXe siècle, c'est vraiment un siècle qui est le siècle de la peinture d'histoire. C'est une peinture, très souvent, qui a été décriée par la critique contemporaine, parce que c'est une peinture un peu pompeuse parfois, et donc, a priori, un peu ennuyeuse. Ce n'est pas le cas, mais néanmoins, il y a cet a priori très fort. Et ce que j'aime particulièrement chez Gros, c'est que chez Gros, on n'est pas dans la peinture d'histoire sèche et ennuyeuse. Chez Gros, la vérité historique, ce n'est pas une vérité immuable. C'est une vérité corruptible, parce qu'elle donne à voir l'envers du décor. Elle donne à voir la réalité, parfois très prosaïque, qui a concouru à construire ce mythe. Mais on n'est pas dans une beauté idéalisée. On n'est pas dans une beauté poétique dans les œuvres de Gros. Bien au contraire. Gros, il donne à voir la laideur, il donne à voir la façon dont cette épopée napoléonienne s'est construite. Et cette laideur, elle est omniprésente ici, par exemple. Elle s'incarne dans ces cadavres qui sont amoncelés, qui sont pour certains totalement pourris. Elle s'incarne également dans ce décor, qui est un décor extrêmement âpre, sombre, glauque même, on pourrait dire. C'est une œuvre gigantesque, Napoléon sur le champ de bataille des Lots. Donc c'est vraiment une œuvre dans laquelle on se plonge littéralement. Et Gros n'a pas hésité à montrer la mort de façon très, très, très dure et très sordide. J'évoquais tout à l'heure Géricault qui s'est nourri de l'influence de Gros. Géricault, il se souviendra de ce tableau lorsqu'il peint le radeau de la Méduse. Alors le radeau de la Méduse, c'est, pour la petite histoire, le tableau emblématique du romantisme. C'est un tableau dans lequel Géricault s'inspire d'un fait divers et il érige ce fait divers au rang de peinture d'histoire. Ça va être extrêmement critiqué à l'époque, ça a été un tollé général, alors que maintenant c'est considéré comme un chef-d'œuvre, d'où la relativité un peu de ces œuvres d'art. Et dans ce tableau-là, le radeau de la Méduse, Géricault s'inspire de ces cadavres amoncelés dans les œuvres de Gros. Le radeau de la Méduse, c'est un épisode absolument tragique, c'était un bateau qui avait fait naufrage au large des côtes du Sénégal. Évidemment, il n'y avait pas de chaloupe pour tout le monde. Et donc, un certain nombre d'hommes, ils étaient 150, je crois, ont construit un radeau de fortune et ont dérivé pendant plusieurs jours. Et au bout du compte, il y avait 10 survivants. Donc, ça a été le voyage de la dernière chance et un voyage dans l'horreur la plus totale. Et justement, Géricault donc représente cette horreur en amoncelant les uns sur les autres les corps morts ou épuisés de ces hommes dans un environnement, là encore, extrêmement hostile et assez glauque, pour tout dire. Je disais tout à l'heure, en parlant de Gros, qu'il avait eu un destin assez tragique. L'épopée napoléonienne, et cette période-là de commande, a été une époque bénie pour Gros. Par la suite, lorsque Louis XVIII vient sur le devant de la scène, hein, c'est la Restauration, Gros va devenir son peintre officiel, et il va multiplier les commandes décoratives. Des œuvres plus précisément, qui n'ont plus rien de la fougue qu'il y avait dans ces tableaux de l'époque napoléonienne. Et Gros va s'essayer de nouveau à la peinture d'histoire, et en fait, alors que c'était un peintre adulé pendant l'époque napoléonienne, il va être extrêmement décrié par la suite. Et toutes ces œuvres, généralement, vont générer des critiques très dures et très violentes, et en fait, il finit mal puisqu'il se suicide en 1835. Donc il a un destin très tragique. Autre artiste que je souhaitais évoquer, Horace Vernet. Horace Vernet, né en 1789, il meurt en 1863, il appartient à toute une dynastie de peintres, et sa spécialité à Horace Vernet, ce sont les sujets militaires. Et donc il a peint l'épopée napoléonienne, mais il l'a peint bien après, hein, puisque ça c'est un tableau qui est peint en 1836. C'est une commande en fait de Louis-Philippe. Louis-Philippe, inspiré par son ministre de l'instruction publique, François Guizot, pour orner le musée d'histoire de France qu'il voulait pour Versailles. Alors ce musée d'histoire de France était une entreprise assez idéale qui visait à montrer les hauts faits qui ont construit la France, et notamment dans ce musée d'histoire de France, il y avait la galerie des batailles qui devait exposer des tableaux de guerre, des tableaux de bataille, de ces batailles qui ont fait la France là encore. Et donc Horace Vernet peint en 1836 la bataille de Wagram. Et on a donc ici un Napoléon, là encore, très sage, très calme, qui surplombe la scène, auréolé, là encore, de ses soldats qui lui sont tout dévoués. Wagram est une victoire napoléonienne, donc là encore, hein, c'est la volonté de magnifier, de sublimer cette gigantesque épopée. Autre tableau d'Horace Vernet, Napoléon Ier passant devant les troupes à la bataille d'Iéna. Là encore, hein, commande de Louis-Philippe pour cette galerie des batailles. Mais ici, Horace Vernet ne représente pas la bataille. En fait, il représente une anecdote qu'il avait pu lire dans le bulletin de la Grande Armée. En fait, pour la petite histoire, un soldat qui s'ennuyait à mourir voulait passer à l'attaque. Et lorsque Napoléon passe devant ses troupes, eh bien, ce jeune soldat arrive sémillant et déclare « À l'assaut, nous allons les attaquer !» Et Napoléon n'a pas du tout apprécié la témérité de ce soldat et l'avertement tensé. Et donc, voilà, c'est cette anecdote-là, ce passage devant les troupes de Napoléon Ier que choisit de représenter Horace Vernet. Je voulais évoquer cet artiste-là. Bon, je me suis beaucoup concentrée sur la peinture, mais évidemment, il y a également des sculpteurs qui se sont plus à être les chantres de cette épopée napoléonienne. Et parmi ces sculpteurs, il y a Antonio Canova. Antonio Canova, c'est un sculpteur italien. C'est le grand sculpteur du néoclassicisme. Et c'est une esthétique qu'il approfondit au contact des grands chantiers archéologiques de l'époque, hein, puisqu'il est italien. Donc il peut se déplacer à l'envi sur les grands chantiers contemporains. Et Antonio Canova choisit de représenter ici Napoléon en mars, pacificateur. Donc on est dans une image très idéalisée. On a recours à la mythologie romaine pour magnifier les qualités guerrières de Napoléon. Et en fait, pour la petite histoire, l'œuvre n'a pas du tout plu à Napoléon, qui était un peu chagriné par cette nudité et qui finalement a décrété qu'on ne pouvait pas décemment exposer cette œuvre parce que c'était... Il y avait trop de nus. Voilà. Donc, c'est un échec, mais néanmoins, ça montre bien cette réinterprétation des codes iconographiques et cette réinterprétation des grandes références historiques. Donc, Napoléon, c'est un homme de guerre. C'est ce trait que les artistes et que les écrivains vont retenir, que ce soit dans des portraits élogieux ou dans des portraits à charge. Quoi qu'il en soit, Napoléon ne laisse pas indifférent. Tout à l'heure, en introduction, j'évoquais Chateaubriand et ses mémoires d'outre-tombe. Et là, je voulais évoquer un autre ouvrage de Chateaubriand qui s'intitule « De Bonaparte et des Bourbons ». C'est un ouvrage très acerbe, très critique, qui est publié en 1814. Au départ, Chateaubriand, il est assez admiratif de Napoléon. Disons qu'il n'a rien contre lui. Et puis par la suite, à la chute de l'Empire, il va se montrer de plus en plus critique. Et là, en l'occurrence, cet ouvrage-là, c'est un véritable pamphlet. Et voici ce que Chateaubriand écrit à propos de Napoléon. « Il n'est que le fils de notre puissance, et nous l'avons cru le fils de ses œuvres. Sa grandeur n'est venue que des forces immenses que nous lui remîmes entre les mains lors de son élévation. Il hérita de toutes les armées formées sous nos plus habiles généraux, conduites tant de fois à la victoire par tous ces grands capitaines qui ont péri et qui périront peut-être jusqu'au dernier, victimes des fureurs et de la jalousie du tyran. Il trouva un peuple nombreux, agrandi par ses conquêtes, exalté par ses triomphes et par le mouvement que donnent toujours les révolutions. » Donc on est dans un portrait très critique qui tend à écorner un peu le mythe napoléonien. Finalement, Napoléon ne s'est pas fait tout seul pour Chateaubriand et il tient justement à insister là-dessus. Ce n'est pas un destin individuel, c'est un destin collectif, cette épopée napoléonienne. À la fin du XIXe siècle, même à partir du milieu du XIXe siècle, grosso modo, le personnage de Napoléon se transforme. On va dire grosso modo qu'au dans la première moitié du XIXe siècle, c'est à la fois un personnage adulé et décrié. Il y a la légende dorée d'un côté, il y a la légende noire de l'autre. Et puis par la suite, cette image se nuance. Il y a cette chute de l'empereur, il y a cet exil et cette mort dans la solitude la plus complète sur l'île de Sainte-Hélène. Tout ça vise à nuancer, à adoucir un peu le portrait qu'on retient de Napoléon. Et ce sont des événements qui vont concourir à mythifier Napoléon. Et donc par la suite, les artistes qui peignent l'épopée napoléonienne après le déroulement de cette épopée-là vont essayer d'humaniser un peu cette gigantesque aventure et vont tenter de révéler la fragilité, l'humanité de Napoléon. Alors j'évoquerai notamment cet artiste-là, Jean-Jules Lecomte de Nouilly. Il est né en 1842. Il meurt en 1923, c'est un peintre d'histoire, hein. On est vraiment dans la peinture académique, il a d'ailleurs un parcours extrêmement classique, hein. Il est dans l'atelier de Charles Glaire, puis de Jean-Léon Gérôme, qui sont des artistes académiques. Et en 1869, le comte de Nouilly peint le souper de Beaucaire. Alors ça, c'est un épisode qui prend place durant la période révolutionnaire. Bonaparte est envoyé en mission dans le sud de la France, il y a une insurrection dans le sud de la France, et donc Bonaparte est chargé de régler les choses. Et Bonaparte, à ce moment-là, écrit un pamphlet intitulé « Le souper de Beaucaire », dans lequel il se fait l'ardent défenseur de la Révolution et de la République. Et donc on a ici l'image d'un jeune Bonaparte passionné, expliquant devant ses convives médusés l'importance de la Révolution. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans une atmosphère de clair-obscur, donc qui tend justement à singulariser l'événement, à lui donner un côté vénérable, voire un côté mystique. Et c'est une œuvre qu'on peut rapprocher d'une iconographie utilisée par les artistes dans la représentation des pèlerins d'Emmaüs. Ça, c'est les pèlerins d'Emmaüs de Rembrandt. C'est une version qui est conservée à Paris, au musée Jacquemart-André. Et donc, on retrouve ce clair-obscur. On retrouve la posture, là, du Christ. Et devant ce pèlerin médusé qui n'arrive pas à croire qu'il s'agit bel et bien du Christ. Donc, on est dans une atmosphère mystique, littéralement, qui vise à sublimer, là encore, cet épisode. Paul de la Roche, Bonaparte franchissant les Alpes. Rappelez-vous le tableau que je vous ai montré tout à l'heure de David, Bonaparte franchissant de Saint-Bernard. On avait un Bonaparte totalement insensible aux éléments naturels autour de lui, qui restait malgré tout magnifique, téméraire, résolu. Et là, on a une œuvre tout à fait différente, puisque de la Roche, qui est un peintre d'histoire lui aussi, donne à voir l'envers du décor. On est dans un paysage extrêmement menaçant. On est dans le froid, dans la neige, et bon, visiblement, Bonaparte grelotte ici, et on a donc ce personnage grelottant de froid, l'air franchement découragé, franchement là, et tout est fait pour montrer la lassitude de cette fantastique équipée à travers les Alpes, et notamment, vous voyez la monture, elle n'a pas fière allure, elle est très différente de ce cheval cabré et qui néanmoins était somptueux et magnifique dans le tableau de David. Donc on est très loin de cette image du héros insensible aux éléments de la nature, on est vraiment dans l'image de l'homme qui forge son destin dans la difficulté et dans la fatigue. Un autre artiste que je voulais évoquer également, c'est Ernest Meissonier. C'est un tableau qui, initialement, devait faire partie d'un cycle. Malheureusement, ce cycle ne sera pas mené à terme, mais on a la chance, enfin, le musée d'Orsay a la chance de conserver cette œuvre-là, qui est de tout petit format et qui, pourtant, paraît gigantesque. Elle paraît gigantesque par quelques astuces picturales, notamment cette horizontalité des gris. Et elle est également... elle est également rendue, cette impression de grandeur, par le choix de Meissonier de représenter Bonaparte et ses troupes un peu en contre-plongée. Donc on a vraiment l'impression d'être face à une marche grandiose, écrasante, et pourtant une marche qui se fait là encore dans la difficulté. On a un paysage bourbeux et on a ces soldats qui semblent là encore frigorifiés et bien fatigués. Donc voilà, il y a cette volonté de montrer l'envers du décor et de révéler l'humanité, la vulnérabilité de cette épopée napoléonienne. L'image de Napoléon Ier donc se nuance, je l'ai dit, hein, c'est vraiment l'exil et la mort en solitaire sur cette île de Sainte-Hélène qui vont adoucir le portrait que l'on va retenir par la suite. Il y a vraiment une forme de nostalgie qui se met en place. Et cette nostalgie, elle est très sensible dans l'œuvre de Jeanne Isabey. Jeanne Isabey, c'est un peintre qui naît en 1804, qui meurt en 1886 et qui a peint cet épisode de l'épopée napoléonienne. C'est la fin de l'épopée napoléonienne, hein, puisque c'est le transbordement des restes de Napoléon à bord de la Belle Poule. Et il donne à voir ici, Isabey, une vision très, très émouvante de cette fin d'épopée. La scène est nappée par l'obscurité, il y a quelque chose d'impressionnant, de cauchemardesque presque, hein, dans ce tableau, et le regard est d'emblée attiré par les étoffes blanches qui singularisent le cercueil. Il est aisément reconnaissable pour le spectateur grâce justement à ces étoffes et grâce également aux fumées blanches des salves de canon. Du coup, le spectateur est d'emblée attiré par cet amas de blanc, de gris clair, et ça vient singulariser la scène qui est vraiment auréolée par des tons très sombres et très obscurs. Ça donne à cette scène-là un côté très, très onirique, hein, très féerique. Ici, le retour de Napoléon est vu avec respect, avec dévotion. On est vraiment dans le recueillement. Donc ça, c'était pour la légende dorée. Évidemment, le revers de la médaille, c'est la légende noire. Cette légende noire, elle est elle n'est pas propre à la France, hein, les artistes qui vont dénigrer Napoléon sont européens, sont anglais, allemands, français. Mais c'est surtout les Anglais qui vont être les plus fervents contempteurs de Napoléon Ier. Bon, il faut bien avoir à l'esprit le contexte culturel de l'époque. Hein. Des deux côtés de la Manche, il y a une anglophobie et une francophobie bien nourries. Donc forcément, il y a une forme d'intolérance à l'égard de ce personnage qui arrive sur le devant de la scène et qui s'impose de façon assez arbitraire. Napoléon, vu par les Anglais, c'est un tyran, ni plus ni moins. Et il va être grimé en un personnage très caricatural. Il va devenir, sous la plume de ces caricaturistes anglais, un personnage épouvantablement laid, colérique, minuscule et extrêmement, extrêmement nerveux. Voilà, j'évoquais tout à l'heure James Gilray. qui est un des grands caricaturistes anglais et qui a beaucoup été inspiré par cette épopée napoléonienne. Et ça, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple de cette critique anglaise à l'encontre de cette épopée napoléonienne et à l'encontre de la voracité de Napoléon qui a voulu s'emparer de tel ou tel territoire et qui les a spoliés. Là, on a justement Bonaparte tiré par ces personnages, et on voit que Bonaparte on voit les prises de guerre de Bonaparte. On a cette botte qu'il a, cette botte c'est l'Italie. De cette botte, émerge tout un tas de pièces. Donc ça évoque les spoliations qu'il a faites dans ce pays. L'autre pied qui est dénudé est fièrement campé sur ce fromage hollandais. Donc là aussi, ça évoque ces territoires convoités par Napoléon. Alors. James Gilray, c'est un caricaturiste qui va qui est dans la critique, évidemment, la critique très très virulente, très violente, mais c'est toujours très drôle et c'est toujours très fin, et il va justement donc s'amuser à ridiculiser Bonaparte, et là on le voit justement, Bonaparte devient, et ça va être une sorte de double, devient, alors pardonnez-moi pour l'accent absolument épouvantable, devient Little Bonnet, le petit Bonnie, n'est-ce pas, et ce petit Bonaparte minuscule est ici dans une crise de colère, une crise d'hystérie. On est dans un intérieur totalement ravagé, tout est cassé autour de lui, et c'est un intérieur ravagé très visiblement par un accès de colère, parce que voilà, ce Bonaparte est un homme obsessionnel, colérique, qui veut à tout prix conquérir l'Europe, rien ne l'arrêtera, et ce n'est ni plus ni moins qu'un petit enfant capricieux qui s'excite ici. Autre œuvre de Gilray, qu'on pourrait traduire par, grosso modo, la catastrophe est imminente, on a donc un festin. Bonaparte, fébrile, là encore, ne sachant plus où donner de la tête. À ses côtés, Joséphine de Beauharnais, qui était une femme d'une beauté magnifique et qui est là, grimée en une espèce de grosse pochetronne, qui boit goulûment, avidement. Et on a cette table, et alors c'est assez intéressant, en fait, cette table représente tous les symboles de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est le pays tant convoité par Napoléon. Autre caricaturiste, John Coase, donc on a là la représentation de Bonaparte devenu consul, et la représentation de Bonaparte, très grimée, très caricaturale, avec ses jambes arquées, cette espèce de petit torse, et la représentation de Bonaparte face à John Bull. John Bull, c'est la figure typique de l'anglais, un peu comme l'Amérique à l'oncle Sam, bien l'Angleterre à John Bull. Et là encore, donc, c'est la confrontation entre la France et l'Angleterre. Et toujours cette vision d'un homme petit, minuscule, caractériel et grimaçant, qui est vraiment omniprésente dans les caricatures anglaises. Alors on retrouve ce minuscule petit bonhomme face à un gigantesque cosaque qui est en train justement de l'emprisonner sous son bonnet. Et toujours cette image du petit homme pestant, effuyant, cherchant à tout prix à conquérir ses territoires et faisant fi de ses ennemis en tout genre. Donc l'Angleterre a vraiment été le terrain idéal pour ces caricatures. Voilà, on s'amuse à détester Bonaparte, et effectivement, il y a des caricatures de bon goût ou de mauvais goût d'ailleurs, des caricatures qui se plaisent vraiment à dénigrer, à décrédibiliser Napoléon. Mais il y a d'autres caricaturistes, pas seulement anglais, qui se sont penchés sur ce mythe napoléonien et qui ont cherché à l'écorner, ce mythe napoléonien. Ça, c'est un caricaturiste qui s'appelle De Sales et qui représente ici donc le dernier effort du nain jaune pour soutenir Nicolas. Nicolas, c'est un prénom... Je ne ferai pas de mauvais jeu de mots, même si les ressemblances peuvent être assez séduisantes. Passons. Le prénom Nicolas est un prénom très commun à l'époque. C'est un prénom qui avait été inventé par les royalistes pour justement dénigrer et décrédibiliser l'empereur. Donc là, Nicolas, c'est, j'allais dire une bêtise, c'est Napoléon Ier. Et il y a ce nain jaune qui s'empare de lui et qui cherche donc à le faire basculer. Et cette référence au nain jaune, c'est une référence très négative, puisque le nain est assimilé aux forces du mal. Et donc finalement, il y a cette idée que les forces du mal sous-tendent l'entreprise napoléonienne. Autre vision très négative de cette épopée napoléonienne, la lumière du XVIIIe siècle. Les lumières du XVIIIe siècle, elles sont synonymes de progrès, de raison. Là, on est dans un tout autre type de lumière. Ce sont les lumières de la guerre. Et qui c'est qui allume l'étincelle? Eh bien, c'est Napoléon Ier. Donc, on est là encore dans une image très négative qui vise à donner de l'Empire une image très mortifère, synonyme de mort et synonyme de guerre. Gravure anonyme, c'est la cravate à papa, où on a le fils de Napoléon Ier qui essaye de se hisser vers ce buste et il lui tend une corde, la fameuse cravate à papa. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, le buste de Napoléon est affublé de longues oreilles. Donc c'est une vision très, très négative, puisque ici, Napoléon est comparé au diable. On a des caricatures donc amusantes qui font sourire, qui font rire. On a des caricatures aussi beaucoup plus sérieuses qui cherchent vraiment à dénoncer le revers de la médaille et à dénoncer justement toutes les exactions toutes les batailles mortifères de Napoléon Ier. Et c'est le cas notamment de cette gravure anonyme, le triomphe de l'année 1813. C'est une gravure qui fait référence à la bataille de Leipzig en Allemagne en 1813. À l'issue de cette bataille, les armées napoléoniennes perdent l'Allemagne. Et là, on voit donc le buste de Napoléon. On est dans une composition qui évoque un peu les œuvres d'Arcimboldo, qui était un peintre qui assemblait des tas d'objets, des tas de végétaux pour composer des portraits. Sauf que là, on est dans un portrait qui est en fait un assemblage de cadavres. Voilà, on est dans l'évocation vraiment très, très négative de ces batailles napoléoniennes qui ont été le lieu de sacrifice de centaines de milliers d'hommes. Autre peintre qui a donné à voir une vision très, très négative et très dure de cette épopée napoléonienne, c'est Goya. Goya, c'est un peintre et un graveur espagnol, un peintre de cour, mais bon, ce n'est pas l'objet de ce cours d'aujourd'hui. Et Goya représente ici, alors il peint en 1814, mais en fait il représente un événement qui s'est déroulé plusieurs années avant, en 1808. Il représente l'insurrection qui a éclaté à Madrid en mai 1808 contre les troupes napoléoniennes. Alors qu'à ce moment-là, donc Napoléon entend attribuer le trône d'Espagne à l'un de ses proches, son frère. Et il y a une insurrection de la part de ces madrilènes et cette insurrection est écrasée dans le sang. Et donc Francisco Goya va réaliser deux œuvres pour commémorer ces épisodes. Le Dos des Maillots, qu'on voit ici, et le 13 des Maillots. Alors bon, là aussi, accent épouvantable, pardonnez-moi. Dans cette œuvre-là, on voit l'assaut des Mamelouks, qui étaient donc qui faisaient partie des troupes napoléoniennes contre les émeutiers. Un assaut qui se fait dans la sauvagerie, dans la fureur. C'est très sensible au niveau de cet enchevêtrement des personnages, et puis c'est très sensible au niveau des couleurs choisies par Goya, qui ne sont pas des couleurs anodines. On est dans des couleurs chaudes, des tons de rouge, de brun, de jaune, qui vise à montrer justement l'ardeur du combat. Et l'autre œuvre, c'est le 13 des Maillots. Ces deux œuvres sont conservées à Madrid, au musée du Prado, où là, on est dans des coloris très différents, dans des coloris froids, noir, brun, gris, et on a ce clair-obscur qui met en valeur les insurgés, qui sont nettement individualisés, et ça, ça contraste avec cette espèce de corps de soldats napoléoniens qui forment justement un seul et même bloc, ce qui tend à les déshumaniser davantage. Et ici, tout est fait pour, comment dire, ici, tout est fait pour montrer l'ignominie de ce geste et l'ignominie et l'injustice de cette mort. Donc, il y a le fait que ces personnages sont auréolés de lumière, il y a le fait que ces personnages nettement individualisés contrastent avec ce corps de troupes napoléonien, et puis il y a surtout la posture de cet homme-là qui a les bras tendus, donc c'est une posture christique qui fait référence à la crucifixion, tout simplement. Et ce personnage, implore les soldats et malgré cela, eh bien, il sera tué. Donc Goya cherche vraiment ici à dénoncer la sauvagerie des troupes napoléoniennes. Autre caricature, celle de William Helms, le général Frost rasant le petit Bonaparte. On est en pleine campagne de Russie. La campagne de Russie, elle a lieu entre juin et décembre 1812. Et cette campagne de Russie est un échec militaire. Il y a plusieurs centaines de milliers d'hommes qui meurent au combat. Et à ce moment-là, en France, débute véritablement la légende noire. C'est-à-dire qu'on commence à dire non, là, ces ambitions napoléoniennes sont vraiment démesurées, trop de morts, trop de pertes. Et voilà, en France, certaines voix commencent à se faire entendre de façon de plus en plus forte et de plus en plus virulente. Là, on a une gravure assez rigolote, puisque le général Frost, c'est le gel en anglais. Donc on a cette espèce d'incarnation du froid, du gel, une incarnation monstrueuse qui écrase de ses pattes velues et crochues les troupes napoléoniennes qui font pâle figure et qui est en train de prendre par le nez un petit Bonaparte qui, malgré le désastre militaire, eh bien, est fièrement campé sur ses positions et s'entête dans cette campagne militaire. Donc voilà, une vision très crue et une vision qui cherche à ridiculiser, à rapetisser cet empereur ambitieux. Autre caricature qu'on pourrait traduire par Témouché, petit Bonaparte, avec ce cosaque, un cosaque grimaçant, hilar, qui est en train en fait d'éteindre une bougie en forme de Bonaparte. Et là aussi, c'est pour montrer que ses ambitions napoléoniennes ont une fin et qu'il est grand temps justement qu'elles prennent fin. Et donc les caricaturistes ridiculisent cette ambition napoléonienne tellement grandiose, tellement immense et qui finalement est bien peu de choses. En 1814, campagne de France, la France combat contre une coalition formée par l'Angleterre, par la Russie, la Prusse, l'Autriche, c'est un échec, et à l'issue de cette campagne de France, qu'avait représenté Meissonnier, tout à l'heure je vous l'ai montré, à l'issue de cette campagne, Napoléon est obligé d'abdiquer et part en exil sur une île au large de l'Italie, l'île d'Elbe. Alors voici une caricature qui évoque justement ce départ pathétique, le voyage d'un héros moderne sur l'île d'Elbe, où on voit un Napoléon Ier totalement déçu, totalement ridicule, avec son épée cassée, et qui est assis donc à l'envers sur cette âne. Et voilà, la direction, elle est irrémédiable, c'est l'exil sur l'île d'Elbe. Néanmoins, il va revenir au pouvoir pendant une très brève période qu'on appelle la période des 100 jours, entre mars et juin 1815. Et lorsque Napoléon Ier part sur l'île d'Elbe, entre en scène Louis XVIII. Donc Louis XVIII règne très très peu de temps. Napoléon Ier le chasse et revient donc au pouvoir durant cette brève période des 100 jours. J'évoquais tout à l'heure Girodet Triosson, il a réalisé un certain nombre d'estampes durant sa carrière, et cette estampe est assez rigolote. Donc c'est Napoléon arrachant à Louis XVIII sa couronne, et on a un Louis XVIII tout gauche et tout bedonnant, avec un tout petit poignard en forme de lys, et il est agrippé par Napoléon Ier, qui est tout aussi bedonnant, néanmoins qui est beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus menaçant, parce que regardez son petit poignard en fleur de lys, et regardez la longue épée dangereuse et épouvantable de Napoléon Ier. Voilà, donc Louis XVIII est évincé, il reviendra sur le devant de la scène, puisque à l'issue de ces 100 jours, Napoléon, qui a définitivement perdu la guerre contre les coalitions européennes liées contre lui. Et des faits à Waterloo, hein, c'est la fameuse bataille de Waterloo, en 1815, et cette bataille de Waterloo provoque la chute définitive de Napoléon qui s'exile sur l'île de Sainte-Hélène. Et donc Louis XVIII revient sur le devant de la scène, mais ça c'est une toute autre histoire. Voilà, je conclue rapidement. Donc Napoléon part en exil sur cette île de Sainte-Hélène, il meurt quelques années plus tard, en 1821. Et quelques années après, donc, se met en place une toute autre légende qui vise donc, je l'ai montré tout à l'heure, à donner l'image un peu nostalgique eh bien, d'un homme qui finalement avait un destin grandiose et qui a connu à la fois la gloire et la défaite. Et c'est notamment la rédaction du mémorial de Sainte-Hélène qui va profondément nuancer justement ce portrait et qui donne une image beaucoup plus humaine de Napoléon Ier, qui n'hésite même pas à le présenter comme un martyr. Bon, c'est très, très subjectif, hein, le mémorial de Sainte-Hélène, hein, je tiens à le préciser. Bref, en tous les cas, son image est nuancée dans le bon sens du terme. Et en fait, quelques années plus tard, à partir de 1830, en fait, en plein dans la monarchie de Juillet, on va donner toute sa place au souvenir de Napoléon. C'est-à-dire qu'on oublie cette image d'homme de guerre avide, vorace, qui n'a pas hésité à sacrifier des centaines de milliers d'hommes pour bâtir un empire monstrueux. On évince cette image-là et on donne à voir donc l'image d'un homme courageux, téméraire, un destin qui a construit la France, quelque part. Et la monarchie de Juillet va avoir un rôle très important. En 1836, va être inauguré l'Arc de Triomphe, qu'on voit ici. Et l'Arc de Triomphe, eh bien, c'est aussi un hommage aux armées napoléoniennes et aux conquêtes. Et là, notamment, c'est l'un des bas-reliefs de cet Arc de Triomphe, où on a une image très idéalisée, très héroïsée de Napoléon Ier. Napoléon, il a donc eu conscience très tôt de l'utilité de l'art, hein, on l'a vu, hein, dès ses campagnes militaires durant la période révolutionnaire, il cherche à solliciter les artistes et il cherche à promouvoir ses actions héroïques. C'est un usage politique et j'ai bien montré durant ces trois séances que l'art avait un usage politique très important puisqu'il promeut les actions, il promeut la puissance, le prestige, la légitimité de Napoléon Ier, et c'est un usage donc politique mais également stratégique puisqu'il fixe dans le temps l'œuvre napoléonienne. Donc on est à la fois dans une œuvre de remémoration, ah bah oui, il faut se rappeler de tel ou tel événement, mais on est aussi dans une œuvre de commémoration puisqu'on célèbre littéralement cette épopée napoléonienne, il faut faire mémoire et c'est une réussite totale puisque du point de vue des arts, eh bien, les collections du Louvre notamment sont immense et nombreuse, et le département des peintures du XIXe siècle est un département qui regorge, pour la petite histoire, de peintures tout à la gloire de Napoléon. La mécanique était bien huilée. Voilà.